Laudetur Jesus Christus.
Saint Paul est le témoin souffrant du Christ ressuscité. Le pape François poursuivit sa catéchèse ce matin sur les actes des apôtres lors de l'audience générale. Il s'est arrêté en particulier sur la figure de Saint Paul, le détail juste après ses titres. Le gouvernement français dévoile son projet de réforme des retraites. Il faut inciter les Français à travailler plus, a dit il y a quelques minutes le Premier ministre Édouard Philippe. Le pays est toujours fortement paralysé par les grèves. À la une de ce journal également, la réponse d'Aung San Suu Kyi aux accusations qui visent la Birmanie de génocide. La dirigeante birmane a défendu ce matin son pays devant la Cour internationale de justice à La Haye. Et puis nous vous emmènerons au Liban où la crise économique et sociale s'aggrave. Les Libanais demandent de l'aide. Reportage dans un centre médico-social géré par des religieuses dans la banlieue de Beyrouth.
Le journal Olivier Bonnel.
Bonjour, le pape François, au cours de l'audience générale, a poursuivi sa série de catéchèses sur les actes des apôtres. Depuis la salle Paul VI du Vatican, le Saint-Père s'est arrêté sur la situation difficile de Saint Paul lors de son arrivée à Jérusalem, alors qu'il avait une très mauvaise réputation. Paul subira ensuite l'épreuve de la prison, mais Cyprien Viette, le pape a expliqué que ce sont justement ces difficultés qui ont fait de l'apôtre Paul un véritable chrétien.
Oui, Paul n'est pas seulement l'évangélisateur plein d'ardeur, le missionnaire intrépide parmi les païens qui donne vie à de nouvelles communautés chrétiennes, mais il est aussi le témoin souffrant du ressuscité, a expliqué le pape François au début de sa catéchèse. Son arrivée à Jérusalem en effet déclenche un climat de haine à son égard, car il est reconnu comme un persécuteur. Paradoxalement, ce sont des soldats romains qui le sauvent d'un lynchage. Mais ensuite, il se situe clairement dans la suite du Christ avec son incarcération. Paul est alors accusé d'avoir enseigné contre la loi et le temple, et il est ainsi associé à la passion de son maître. Le roi Agrippa est touché par la sincérité de Paul et le déclare innocent, mais l'appel à César rend nécessaire le transfert de Saint Paul à Rome comme prisonnier, et paradoxalement, cette contrainte contribuera à la diffusion de la parole de Dieu jusqu'au cœur de l'Empire. Les chaînes de Paul sont une épreuve humiliante pour l'apôtre, mais en étant lu avec les yeux de la foi, elle nous enseigne la persévérance dans l'épreuve. Demandons aujourd'hui au Seigneur, par l'intercession de l'apôtre, de raviver notre foi et de nous aider à être fidèles jusqu'au bout dans notre vocation de chrétien, de disciple du Seigneur, de missionnaire, a conclu le pape François.
Merci beaucoup Cyprien Viette. Et toujours lors de cette audience, le pape a évoqué également sa rencontre avec les fidèles ukrainiens ce matin à la basilique Saint-Pierre. Ils ont souffert pour l'évangile, mais ils n'ont pas négocié la foi. Il y aura toujours des martyrs parmi nous. C'est le signal que nous allons sur la route de Jésus, a-t-il souligné en évoquant cette audience avec des fidèles de l'église gréco-catholique ruthène qui fête les 30 ans de sa sortie de clandestinité. Et durant cette rencontre, le pape a notamment rendu hommage au bienheureux Théodore Romza, un évêque de 36 ans assassiné par la police politique de Staline en 1947. Cette église ukrainienne avait été totalement interdite par le régime soviétique. Des détails à retrouver sur notre site vaticannews.va. À la une de l'actualité, la France, où le projet de réforme des retraites a été présenté ce matin par le chef du gouvernement Édouard Philippe. La colère est toujours grande dans le pays et les grèves nombreuses, perturbant toujours les transports publics. Le Premier ministre qui donne toujours en ce moment une conférence de presse devant les délégués syndicaux réunis au Conseil économique, social et environnemental. Retour sur les premières mesures avec notre correspondante Marie-Christine Bonzon.
Dans son discours, Édouard Philippe a défendu d'emblée le nouveau système que lui et le président Macron proposent aux Français. Il le conçoit comme une refondation et non pas comme une bataille, dit-il. Il veut sortir du rapport de force. Il affirme avoir écouté et entendu les partenaires sociaux et aussi l'ensemble des Français. Il estime que le nouveau système qu'il propose sera un nouveau pacte entre les générations qui correspond mieux au système de travail actuel dans le XXIe siècle. Il parle de refondre profondément cependant les règles du système actuel tout en restant fidèle, dit-il, aux valeurs fondatrices du système français qui remontent à 1945, c'est-à-dire des valeurs de solidarité et d'équité. Il affirme qu'il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu, ni perdant, ni gagnant véritablement, que tout le monde sera gagnant, mais il n'y aura pas, dit-il, de perdant. Il faudra évidemment rentrer dans les détails et c'est ce qu'il a commencé à faire dans ce discours d'environ une heure.
Marie-Christine Bonzon, notre correspondante en France. La conférence mondiale sur le climat, la COP25, se poursuit à Madrid. Les pays présents jusqu'à vendredi soir pour montrer leur volonté de bien appliquer l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement sous les 2 degrés. Ce matin, la très médiatique Greta Thunberg a accusé de tromperie les engagements annoncés par les États en matière de lutte contre le changement climatique. La plupart des promesses ne tiennent pas en compte en effet des émissions des secteurs aériens et maritimes internationaux, a relevé l'adolescente suédoise. Et puis du côté de Bruxelles, la nouvelle Commission européenne menée par Ursula von der Leyen a présenté ce matin son pacte vert, une feuille de route ambitieuse qui souhaite faire de l'Union européenne le premier continent neutre en carbone. Une grande loi climatique devrait être proposée d'ici le mois de mars. La Birmanie sur le banc des accusés à la Cour internationale de justice. Rangoon est accusé par la Gambie de mener un génocide contre les Rohingyas. Hier à La Haye, les représentants gambiens l'avaient appelé à cesser les persécutions. Ce matin, c'est la chef de la délégation birmane, Aung San Suu Kyi, qui a parlé et défendu la position de son gouvernement. Xavier Sartre.
La Birmanie nie toute intention génocidaire contre les Rohingyas. Aung San Suu Kyi a été très claire. Elle reconnaît certes que l'armée a peut-être utilisé une force disproportionnée contre la minorité musulmane, mais le terme de génocide ne peut être retenu. Selon celle qui dirige de facto le gouvernement birman depuis le retour des civils aux affaires, la Gambie a présenté à la Cour internationale de justice un tableau trompeur et incomplet de la situation dans l'état de Rakhine. La Gambie, qui est mandatée par les 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique, a mis en cause l'implication des militaires birmans, affirmant que le gouvernement n'avait aucune intention de mettre en cause ses généraux dans la répression qui a visé les Rohingyas ces dernières années. Aung San Suu Kyi, depuis que son parti a remporté les premières élections libres dans le pays, doit composer avec l'armée qui, grâce à une constitution taillée sur mesure, conserve la haute main sur toutes les questions de sécurité. C'est elle qui gère ainsi toutes les opérations visant les minorités ethniques du pays, opération le plus souvent violente.
Xavier Sartre. Les Algériens toujours mobilisés contre l'élection présidentielle alors que le scrutin doit se tenir demain. Des milliers de personnes défilent encore ce mercredi à Alger, brandissant des cartons rouges pour signifier leur refus d'aller voter à une élection qu'ils jugent jouée d'avance. Les 5 candidats en lice sont en effet tous des cadres de l'ancien régime. Israël s'achemine vers de nouvelles élections. Les députés ce matin ont donné un accord préliminaire à une dissolution du Parlement. Faute de parvenir à former un gouvernement, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre sortant, tout comme son rival Benny Gantz, sont dans l'incapacité de former une majorité fixée à 61 députés. Ils ont jusqu'à ce soir minuit. Les prochaines élections, les troisièmes en un an, pourraient se tenir en mars prochain, juste avant les fêtes juives de Pourim. Paris accueille aujourd'hui une réunion du groupe international de soutien au Liban. Le pays est frappé par une profonde crise économique à l'origine du soulèvement populaire depuis plus de 50 jours. Cette réunion est critiquée par des intellectuels libanais. Ils redoutent qu'elle offre un blanc-seing à la classe politique très décrié. La dégradation économique pousse en tout cas de plus en plus de Libanais à chercher de l'aide, comme au dispensaire intercommunautaire, un centre médico-social géré par des communautés religieuses féminines en banlieue de Beyrouth. Le reportage de notre correspondante Laure Stéphane.
Au croisement de quartiers populaires de la banlieue est de Beyrouth, le hall du dispensaire intercommunautaire est plein. Femmes et hommes attendent leur tour pour recevoir un peu de nourriture. Parmi la foule, beaucoup de Libanais. Sœur Marie-Justine, responsable.
Les Libanais ont beaucoup besoin de nourriture, de vêtements. Les dernières semaines ont beaucoup dégradé. C'est le cri qui vient d'un étranglement de la situation actuelle.
Les prix de denrées alimentaires ont augmenté. Des Libanais perdent leur travail. D'autres ont vu leur salaire diminuer de moitié pour pouvoir conserver leur emploi. Une dégringolade très rapide, sœur Marie-Justine.
On ne sait pas. La situation commence à dégringoler de cette façon. Ils viennent parce qu'ils ont besoin. Et on voit maintenant la quantité a beaucoup augmenté quand même.
C'est grâce en grande partie à des donateurs libanais que les religieuses viennent en aide aux plus démunis dans ces quartiers où vivent aussi réfugiés syriens et migrants, eux aussi confrontés à la dégradation économique. Beyrouth, Laure Stéphane, Radio Vatican.
Sergueï Lavrov à Washington, le chef de la diplomatie russe, était reçu hier à la Maison-Blanche par Donald Trump. Il a également rencontré son homologue américain Mike Pompeo. De nombreux sujets étaient sur la table, la Syrie ou la Corée du Nord, les traités de désarmement, la relance des relations entre Washington et Moscou. Le tout dans un contexte très particulier, celui de l'affaire ukrainienne et des accusations d'ingérence qui pèsent sur la Russie depuis la dernière présidentielle. Elles font l'objet d'une procédure de destitution lancée contre Donald Trump par le camp démocrate. L'extrême l'extrême nord du Cameroun, toujours sous la menace de Boko Haram. Selon l'ONG Amnesty International, la région subit un regain d'attaques de la part de la secte islamiste. Pas moins de 274 personnes ont été tuées par les terroristes depuis le début de l'année, parmi lesquelles 225 civils, selon Amnesty. Les populations locales se sentent complètement abandonnées, note l'ONG, qui invite les autorités camerounaises à renforcer leur protection dans les zones les plus touchées. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, ce sera ce soir à 18h en direct de Rome. Bel après-midi.